RT Cool.
La radio.
School.
Salut, c'est Chloé.
Et Mathieu sur Cool RT. RT Cool.
Et aujourd'hui, place à la rigolade.
Avec la blague de la semaine. Le père de Mathis dit à Mathis.
Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël ?
Je lui ai demandé qu'il vienne plus souvent.
Voilà, c'était la blague de la semaine avec Chloé.
Et Mathieu.
À la semaine prochaine
sur RT Cool.
Mandelieu, la Napoule.
Istanbul.
Rizoul.
Frioul.
Liverpool.
Banjul.
Aknoul.
La Bourboule.
Toul.
Blackpool.
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut, c'est Aloïs,
Barnabé et l'Alaska
pour le pays de la semaine.
L'Alaska est un état des États-Unis depuis 1959,
situé au nord-ouest du Canada. C'est le plus grand état des États-Unis.
Sa superficie est de 1,5 million de kilomètres carrés.
Ses pays frontaliers sont la Russie,
séparée par le détroit de Bering,
et le Canada. Sa population est de 626 930 habitants.
Sa capitale est Juneau.
L'Alaska compte 110 000 ours noirs
et 35 000 grizzlies.
Le climat est océanique au sud
et continental à l'intérieur.
L'hiver est très rude.
C'est le navigateur danois Vitus Bering
qui explora la région en 1741.
Elle était habitée par les Inuits
et les Indiens. En 1867,
l'Alaska est cédé aux Américains par les Russes.
Ses ressources naturelles sont le pétrole,
le gaz,
l'or et le fer. Ah, un ours nous attaque!
Bon ben, à la semaine prochaine!
Cours plus vite, tu vas te faire dévorer!
Coucou, c'est Inès!
Et Johan sur RT Cool.
Johan, ma mère a une verrue. Comment je peux faire?
Facile, il suffit de prendre un zeste de citron, du vinaigre, un petit récipient et du film alimentaire. Tu mets le zeste de citron et le vinaigre dans ton petit récipient. Tu enveloppes le récipient avec le film alimentaire. Ensuite, tu mets le tout au frigo pendant un jour. Et le lendemain soir, tu prends du sparadrap. Tu mets le zeste de citron sur le sparadrap que tu colles sur la verrue pendant la nuit. Il faut renouveler ça au moins 5 nuits de suite.
Si ça ne marche pas, je vais voir un dermatologue. Merci Johan, je vais essayer.
Bonjour, c'est Clémentine.
Et Joachim Murat. C'est Mohamed sur RT Cool.
Nous allons vous faire retourner dans le passé avec Joachim Murat.
Joachim Murat s'engagea dans l'armée en 1787. 7 ans plus tard,
il fut versé dans le 20e régiment de chasseurs à cheval.
Il participa à la campagne de l'Argonne, mais fut destitué le 9 Thermidor à cause de ses opinions jacobines.
Il aida Bonaparte le 13 Vendémiaire et devint son aide dans le camp en Italie. Il fut nommé général de la brigade en 1796.
Et 3 ans plus tard, général de division. Le 19 Brumaire,
il envahit la salle du conseil des 500 avec 60 grenadiers.
Après avoir épousé Caroline Bonaparte,
il contribua à la victoire de Marengo et chassa les Napolitains de Rome.
En 1804, il reçut le bâton de maréchal et en 1805, fut fait prince d'empire et grand amiral.
Il commanda la réserve de cavalerie de la Grande Armée pendant la campagne en 1805.
En 1808,
nommé commandant en chef de l'armée d'Espagne,
il se fit mettre en congé mais reçut en compensation le trône de Naples le 15 juillet 1808.
Aimant le panache,
Murat s'entoura d'une cour fastueuse mais mise en œuvre des réformes importantes.
Il s'intéressa à l'unité et à l'indépendance de l'Italie, demanda le rappel des troupes françaises et voulut obliger les étrangers à se faire naturaliser napolitains.
Après avoir participé à la campagne de Russie, il abandonna en 1813 son poste à la tête de l'armée et rentra à Naples,
où il entama des négociations secrètes avec les Autrichiens. Il rejoignit Napoléon en Allemagne, puis le trahit et signa un traité avec Vienne
et Londres. Mais au congrès de Vienne, son royaume fut rendu aux Bourbons.
Murat voulut appeler toute l'Italie aux armes pour l'indépendance.
Et se lança dans la campagne précipitée.
Mais il dut finalement reculer devant l'armée autrichienne.
Réfugié en Corse,
il tenta un nouveau coup de main sur la Calabre.
Mais ses bateaux furent dispersés par une tempête et il débarqua le 8 octobre 1815 sur la plage de Pizzo avec 30 fidèles.
Fait prisonnier, il fut fusillé 5 jours plus tard.
Nos sources sont
Wikipédia
et une fiche de la classe.
Et maintenant, retour au présent.
Bye bye, bye et à la semaine prochaine sur RT Cool.
Le moment
des sciences.
Bonjour, c'est Thomas
et Eunice pour une nouvelle découverte.
Un ordinateur est composé de 6 parties. Le clavier, l'écran, l'unité centrale, le lecteur CD, le port USB et une souris.
Quoi ? Une souris ? Mais c'est horrible !
Eunice, connais-tu les différentes marques des ordinateurs ?
Non, je ne m'en souviens plus. Peux-tu me rafraîchir la mémoire ?
D'accord, Eunice. Le premier ordinateur électronique, Colossus, a été créé en 1943 en Grande-Bretagne par Alan Turing.
Il servait à décoder les messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Ça te revient.
En 1946, des savants américains mettent au point l'ENIAC, le premier ordinateur entièrement électronique. C'est une énorme machine de plus de 30 tonnes. Il peut résoudre en principe tous les problèmes de calcul. Nous allons poser une question à M. Walter Bratton. Qu'est-ce que le transistor ?
Le transistor est le composant électronique actif qui est une grande étape dans l'histoire de l'ordinateur. Il a été créé en 1947 par nous, les Américains.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu te souviens du SSEC ?
Il a été inventé par Wallace Eckert à l'aide de son équipe en 1948. C'est un calculateur qui a pour programme d'enregistrer et de lire des instructions.
Moi, je m'appelle du Whirlwind. C'est le premier ordinateur temps réel créé par Jess Forrest et Kim Olson, ainsi que leur équipe du MIT. Cette machine a été le prototype des ordinateurs américains sages.
Moi, j'aime bien l'UNIVAC.
Monsieur Eckert et Monsieur Moschli lancent l'UNIVAC, qui est le premier ordinateur commercial de l'histoire en 1951. Le premier fut vendu au bureau de recensement américain pour la somme de 750 000 dollars et 180 000 dollars pour une imprimante rapide.
Il est cher quand même.
Le Xerox Alto.
C'est un prototype. Le premier opérationnel est terminé en avril 1973. Il est inventé par le groupe Xerox Alto. Il est équipé d'une souris, l'Apple Computer. Steve Jobs et Steve Wozniak fondent la société Apple et créent l'Apple Computer en avril 1976.
Et le plus moderne, le MacBook Pro. Le MacBook est une gamme d'ordinateurs portables d'Apple lancée en janvier 2006. Nos sources sont...
Mon quotidien, numéro spécial, les inventions et Internet. Au revoir et à la semaine prochaine pour encore plus d'inventions.
Avia on abes.
Once upon a time.
Ishe.
Ella umeve.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Buenos dias,
c'est Amalia
et Julie sur RT Cool.
Et nous sommes en Espagne
pour la phrase de la semaine.
Mais d'abord, comme Thomas n'était pas là mardi dernier,
il va dire sa phrase actualisée pour cette semaine.
Last Tuesday was the fourth day of December.
Bon, au revoir Thomas, maintenant à nous. Hola, qué tal?
Qu'est-ce que tu as dit Amalia?
Non, rien, laisse tomber.
En parlant de traduction, comment dit-on c'est bientôt Noël. Attention les parents, les cartes bancaires vont chauffer en espagnol.
On dit las navidades se aproximan. Atención a los padres porque las tarjetas de crédito van a echar humo.
Ho ho ho, je m'occupe des enfants.
Bon, on va vous laisser.
Car on doit s'entraîner un peu plus en espagnol.
Mais à la semaine prochaine sur RT Cool.
Salut, c'est Alix.
Eva sur RT Cool pour la nouvelle rubrique qui est le moment du sport.
Aujourd'hui, nous avons décidé que ce sera la GRS.
La GRS n'est pratiquée que par les filles.
On utilise 5 engins.
La corde,
les massues,
le cerceau,
le ballon
et le ruban.
C'est dans les années 1940, au sein des clubs de l'URSS, que se développe ce sport.
En 1948, le premier championnat national soviétique est organisé à Moscou.
Un an plus tard, la Fédération internationale de gymnastique homologue officiellement la gymnastique rythmique en tant que sport de compétition chez les femmes.
En 1963, les premiers championnats du monde ont lieu et en 1983, la France accueille pour la première fois à Strasbourg.
La discipline devient épreuve olympique l'année suivante lors des Jeux olympiques d'été de 1984 en catégorie individuelle et lors des Jeux olympiques d'été de 1996 pour les ensembles.
On peut commencer à l'âge qu'on veut.
En compétition, chaque prestation est notée selon la chorégraphie, l'adresse et le degré de difficulté.
Les gymnastes peuvent évoluer individuellement ou en équipe de 5 gymnastes. La gymnastique rythmique est un sport très exigeant.
Il est considéré comme un véritable mode de vie par les gymnastes.
Ce sport demande
force mentale
et physique,
assouplissement quotidien
et régime alimentaire strict en compétition.
Voici une interview d'Ambre, notre prof de GRS.
Comment avez-vous connu la GRS ?
Alors, j'ai commencé la GRS parce que ma meilleure amie à l'époque pratiquait. J'allais souvent chez elle parce que mes parents travaillaient le soir. Du coup, j'ai commencé avec elle.
À quel âge avez-vous commencé la GRS ?
J'ai commencé au CP.
Merci. La GRS représente quoi pour vous ?
Alors, la GRS pour moi, c'est toute ma vie parce que j'ai commencé toute petite et après, je suis vite montée dans le haut niveau, donc je suis allée en sport-études. J'ai fait que ça pendant toute mon adolescence. Et ensuite, j'ai décidé d'enseigner cette discipline qui est pour moi, c'est ma passion. Et je suis très contente d'avoir des petites gymnastes qui ont aussi envie de partager ma passion avec moi.
Merci. Combien de temps passiez-vous par jour à pratiquer la GRS ?
Alors, quand j'étais en sport études, j'étais à 24 heures par semaine d'entraînement. Maintenant, bien sûr, j'ai arrêté. Hein. Je ne peux plus pratiquer, je suis un petit peu vieille. Mais du coup, là, au niveau de l'entraînement, j'entraîne des gymnastes qui vont de 1 heure par semaine à 10 heures par semaine. Et du coup, moi, j'entraîne 20 heures dans le club.
Merci.
Merci.
Nos sources sont
Copains des Sports
et GRS.fr.
Au revoir et à la semaine prochaine sur RT Cool.
Le coin du musicien.
Bonjour, c'est Paul et Aymeric sur RT Cool pour le premier coin du musicien.
Paul, je m'ennuie. Peux-tu faire quelque chose avec moi ?
Tu veux jouer à un jeu de société ?
Non, je n'ai pas envie.
Alors jouer aux cartes ?
Non, merci.
J'ai une idée. Veux-tu que je te joue un morceau de musique ?
Oh oui, j'aimerais bien.
Je vais te jouer un morceau de piano. Il a été composé par George Frédéric Handel. Ça s'appelle Sarabande con variazioni en ré majeur.
Paul, maintenant je ne m'ennuie plus.
Oh, ce n'est rien. Handel vous remercie
de l'avoir écouté aujourd'hui.
Son mystère.
Salut à tous, aujourd'hui c'est Lucas da Silva
et Bertrand qui vont vous présenter le son mystère.
Mais avant, le gagnant de la semaine dernière est Eglise del Rio.
Le son mystère de la semaine dernière était en effet le bruit d'un cartable qui s'ouvre et qui se ferme.
Maintenant, le son mystère est...
Si vous avez trouvé, répondez-nous sur
son-mystère.cm2@laposte.net.
Les gagnants seront cités dans la prochaine émission.
Bye bye et à la semaine prochaine sur RT Cool.
RT Cool.
La radio.
School.